Enfin, je sais pas, il y a ce truc un peu de... Comme si tu faisais partie d'une petite meute, quoi. Un peu famille à ce sens-là, je crois. Ici, pour moi, c'est un espace communautaire queer aussi, plus officieux, quoi. Dans le sens où les gens qui composent cet espace-là, en fait, sont des gens queer ou des personnes safe et alliées. Et le fait de trouver aussi les questions queer, LGBT ici, ben, c'est plus rare, quoi, en milieu rural, je pense.
Ça veut dire quoi habiter quelque part, traverser les rues et occuper l'espace, se sentir chez soi, se sentir soi, là où l'on vit. Il y a plein de lieux où j'ai vécu et où j'ai senti que j'étais chez moi. Mais je crois, personnellement, que même par choix, j'ai eu du mal à dire j'habite en ruralité. Parce que j'y ai caché pendant quelque temps, et parfois encore, des parties de moi. En milieu rural, nous les personnes queer, vient aussi re-questionner ces sujets. On vient penser et discuter, bâtir et déconstruire, aimer et faire pousser. On vient former des brèches, même les plus petites, pour s'engouffrer dans un monde plus juste, comme une utopie. Je voulais interroger ce que c'est d'habiter en collectif queer LGBTQIA+, TPG en ruralité, ce que cela veut dire de reprendre la terre. Je voulais savoir si, comme pour moi, habiter là, ça provoquait à d'autres un sentiment étrange, comme un paradoxe. À la fois des micro-fissures, de devoir toujours dire, de ne pas savoir à qui dire, et une forme de réparation, d'être au milieu de la nature, par exemple. J'avais, dans ce deuxième épisode, besoin de raconter celles et ceux, et celles qui créent ces brèches et s'y engouffrent et en créent d'autres, pour celles et ceux qui habitent avec nous mais ne comprennent pas toujours. J'avais besoin de raconter d'une façon ou d'une autre l'envie de construire quelque chose, comme un pas de côté, loin de ce que l'on nous impose, loin de ce que l'on voudrait que l'on soit, dans des cases, malgré tout. J'avais besoin de raconter les émulsions collectives, les envies de changement et la place de ces lieux où on habite ensemble. J'avais besoin de dire que ça a existé et que ça existe encore, ces utopies queer et rurales.
J'ai vraiment l'impression d'avoir rencontré mon utopie en venant ici, de me dire, bah voilà, en fait, ça ressemble à ce que moi je rêve de vivre aussi, c'est-à-dire pouvoir vivre à la campagne avec plein de personnes chouettes où le respect de chacun, chacune est primordial et passe avant tout le reste, et où on vit à la fois ensemble mais avec chacun son espace. Et on peut réfléchir à une autre société, on peut discuter, on peut faire des choses ensemble ou même rien faire ensemble. Et ça, vraiment, pour moi, je pense que oui, c'est un peu mon utopie.
Alors j'ai pris le train pour aller dans le Morvan, à Bracy. J'ai passé plusieurs jours à Peyrao, un lieu collectif et ferme pédagogique. L'association a organisé cette année le deuxième festival Morvandiel, un festival où les vies, les récits et les cultures LGBTQIA+, sont mises sur le devant. Dans cette intro, je voudrais les remercier de leur accueil d'abord, et aussi de cette sensation que je ne saurais trop expliquer si ce n'est par le mot « soulagement ». Parce qu'à Peyrao, on se sent tout de suite dans une safe place. Vous écoutez Chant Queer, ceci est la première partie de l'épisode 2 qui s'appelle L'Utopie Queer, Habiter ensemble et faire famille. Ce podcast est produit et réalisé par Élodie Potente. Est-ce que tu peux te présenter ?
Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans et j'habite dans le Morvan, dans le département de la Nièvre, 58, un petit village qui s'appelle Bracy. Je suis éthologue de formation, c'est biologiste spécialisé dans le comportement des animaux. Et j'ai créé une asso qui s'appelle Peyrao, qui est un lieu d'accueil, d'activité, d'animation, nature et refuge pour animaux, ferme pédagogique. J'ai grandi à Bourges et ensuite, après mes études, j'ai habité en camion pendant des années. En 2017, j'avais envie de me poser quelque part, j'avais envie de devenir aussi le lieu qui accueille au lieu d'être toujours la personne accueillie sur les lieux. Et j'avais mes animaux, j'avais envie d'un coin à moi, vraiment d'un lieu où m'installer. Et en fait, cette maison dans le Morvan, c'était la maison de mon arrière-grand-mère qui était décédée depuis quelques années déjà, donc la maison n'était plus occupée et c'est tombé au moment où je cherchais quelque part où m'installer, c'est tombé que ma famille a voulu vendre cette maison. Et donc je me suis dit, bah voilà, c'est le destin. Le Morvan, c'était l'endroit où j'ai passé toutes mes vacances quand j'étais petite et j'aimais beaucoup. Après, je n'avais pas forcément choisi le Morvan, quoi. Et l'occasion, elle s'est faite. Pour moi, la vie collective, en fait, c'est l'avenir. Vivre seule ou en couple dans une grande maison, ça me paraît assez aberrant par rapport... Ben, par rapport à tout le soutien qu'on peut s'apporter entre humains et humaines, par rapport à tout de même la question écologique, en fait, d'habiter des espaces et tout. Sur le côté queer de la coloc, c'est arrivé par les gens qui sont venus habiter, je pense. Ça n'a jamais été une volonté. J'ai pas cherché, j'ai pas du tout cherché ça. Peut-être dans une autre vie parallèle, ce serait une maison où on accueillerait des migrants, par exemple. Enfin, j'en sais rien. En fait, je crois que c'est le hasard des rencontres qui a fait que oui, bah en fait, à l'heure actuelle, on est quand même majoritairement queer dans cette coloc. Il y a 2 hivers. On se fait souvent des soirées jeux de société, on se fait des soirées où on écoute des podcasts, on s'échange des bouquins et tout. Et en fait, on se dit, mince, en fait, là, dans le coin, si on a envie de sortir, se faire je sais pas, une conférence, aller voir un film ou quelque chose sur les questions queer ou LGBT, peu importe, en fait, ça n'existe pas. On n'a aucune visibilité de réseau dans le coin sur ces questions-là. Et autant sur la question de la protection de la forêt, les questions écologiques, on a des lieux très identifiés, des réseaux identifiés sur la question de l'accueil des migrants, sur la question, enfin voilà, on sait tout plein de causes qui nous portent, en fait, on a des réseaux identifiés, mais alors là, sur la question queer, on se dit, il y a que nous, voilà. Et on se dit qu'on aimerait bien partager ça avec les gens du coin qui sont peut-être pas super informés. Et de fil en aiguille, on s'est devenu un peu un festival. Et ça a été la première édition du festival Morvandiel, donc en 2022. Au fur et à mesure de l'émulsion de la création de ce festival, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était vraiment pas tout seul. Et qu'en fait, on était des dizaines et des dizaines dans le coin à se sentir super isolé sur ces questions-là. Et le festival, ça a fait un énorme effet boule de neige parce que je pense que, ouais, en fait, on a fait réseau pour la première fois sur les questions queer dans le Morvan et même au-delà parce qu'on rayonne bien au-delà du département et du parc naturel du Morvan, quoi.
Waouh! Des popcorn, de regarder un film, c'est pas. Une émission.
Nous sommes allés à une viewing party de Drag Race France au Relais des Futurs, un tiers-lieu dans le village de Lorme, à quelques kilomètres de Brassy. La soirée était organisée par Jésus, que j'avais rencontré la veille, avec sa maman Nadine. Je crois que cette soirée de visionnage était comme une preuve de ce qu'a provoqué l'organisation du festival Morvandiel et la vie collective à Peyrao. Dans le quotidien, ça a permis de mettre de la joie, d'aller boire un verre en regardant une émission queer et de se rassembler pour socialiser. Des choses simples, mais vitales.
C'est pas regardé là-bas les thérapies de conversion ?
Pas du tout, c'est encouragé.
Ah, c'est super.
Parce qu'on te dit, si ton enfant il est comme ça, il faut le sauver avant qu'il soit trop tard. On se levait à 5h du matin pour aller louer le Seigneur. Après, on se mettait à genoux des délivrances. Ce qu'ils essaient de nous délivrer, c'est de l'esprit de Mami Wada. Parce qu'en vrai, Mami Wada, chez nous, c'est un esprit que, que les personnes déviantes ont. Les personnes homosexuelles, les femmes qui sont trop libérées. Toutes les personnes un peu...
libres, en fait. Ouais, qui sortent de la norme, normative.
On dit qu'ils ont l'esprit de Mami Wada. Du coup, moi, c'est ce nom que j'ai voulu me réapproprier pour dire qu'aujourd'hui, j'ai l'esprit de Mami Wada et j'en suis fière. Ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui et c'est ce que je veux montrer avec mon talent show, c'est vraiment qui est Mami Wada.
Pour tous les parents qui ont un enfant qui peut-être ne comprennent pas, déjà, instaurer le dialogue. Essayez d'apprendre à connaître votre enfant parce que peut-être que votre enfant se cache beaucoup de vous. Parce qu'il a peur de plus être apprécié, en fait, tout bêtement.
Tu sais que, qu'il y a encore des thérapies de conversion en Suisse aussi.
Ah ouais?
Ah oui? Ouais. On a un peu arrêté, hein.
C'est pareil? C'est pareil.
Moi, j'ai des potes qui ont fait, c'était électrochoc. Mais
écoute, t'as pleuré?
Ah bah, moi, j'ai pleuré.
Ah, ouais,
j'ai pleuré.
Et moi, ce que je me dis, c'est que quand même, ça passe le samedi soir à la télé. Il y a des familles qui voient ça. C'est, voilà, avec les personnes qui racontent leur vie, Mami Wada, voilà. Ouais, c'est puissant, quoi.
Ouais. C'est ça qui me fait pleurer.
Ah bah, bien sûr.
Ouais, c'est ça qui me bouleverse, quoi. Ouais. C'est puissant, là, ce qu'ils font, quand même, quoi.
Ah, oui, c'est un truc.
Je m'appelle Jus. J'ai plus de 40 ans et du coup j'habite dans le Morvan depuis une quinzaine d'années. Avant j'étais à Dijon et voilà, j'ai envie de dire que je suis militante féministe depuis longtemps. J'ai grandi à la campagne dans un village de 300 habitants. Je crois que dès petite j'ai capté que dans les séries et les films Moi, j'étais amoureuse des filles, quoi. Et assez vite, en fait, comme j'avais pas de modèle identificatoire, petit à petit, j'ai fait des déductions en matant l'entourage. J'avais personne d'autre que des hétéros. Et là, je me suis dit, mais en fait, mais je dois être amoureuse de garçons. Bon, bah, ok. Et du coup, j'ai un peu grandi comme ça. Après, il y a les études qui m'amènent en ville et je me retrouve à Dijon. Et à Dijon, je me mets... assez vite dans ma vie, je capte que j'ai besoin de lutter, que c'est un truc vital chez moi et que si je fais pas ça, je me sens pas alignée, quoi. Du coup, je me mets à côtoyer le milieu squat, un milieu politisé, dans la grande ville à côté de chez moi. Assez vite, entre potes, on capte que entre meufs et autres personnes que des mecs cis, on a des places un peu compliquées. Du coup, on monte des collectifs féministes, enfin un collectif féministe. Ça commence un peu comme ça ma vie de féministe là. En fait, on fait toutes nos pratiques en mode un peu sous-marin parce que je crois que tout le monde s'en fout à l'époque. C'est les années 2005 en gros. Ouais, c'est ça. À partir des années 2000-2005. Donc dans ce milieu squat, quand même, on organise un gros lady fest dans la ville, ce qui est quand même un truc de dingue. Pendant une semaine, on arrive à avoir le lieu privatisé juste pour nous, et voilà. Donc ça, c'est un peu le premier gros truc auquel je participe et qui me fait découvrir le milieu queer et me sentir super appelée par cet endroit, quoi. Après, je vais faire un bond de quelques années plus loin. Moi, j'ai habité... J'ai habité en squat, après j'ai habité sur des terrains où on construisait nous-mêmes nos cabanes, j'ai habité en camion pas mal. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie d'aller à la campagne, quoi. En fait, il n'y avait pas une conscience écologique très forte dans les milieux politisés à cette époque, et moi j'avais envie de me relier aussi à ces questions-là. Du coup, pouf, le Morvan, qui à l'époque n'était pas du tout connu. Moi j'arrive ici il y a à peu près 15 ans. Je me sens assez isolée, c'est dur de rencontrer des gens. Et là, en fait, il y a, je sais pas, peut-être 5-6 ans, petit à petit, il y a quand même pas mal de collectifs, de copains, de copines qui viennent me chercher pour faire un peu du conseil sur comment gérer, par exemple, dans des événements culturels, les agressions sexistes, les violences sexuelles sexistes sur les minorités, les meufs, etc. Il y a 2 ans, Camille de Perrao vient me voir en me disant ouais, on aimerait trop taffer sur, sur la question genre et sexualité. Est-ce que ça t'intéresse ? Du coup, moi, je me dis ouais, vas-y, grave, quoi. On lance les premières réunions morvandielles en invitant toutes les personnes dont on se dit qu'elles pourraient être intéressées. Et on se retrouve à, je sais pas, une 10-15 autour de la table. Ça fait un truc assez riche où en fait il y a des gens issus de plein de milieux différents, milieux associatifs, milieux militants. Il y a des personnes concernées directement, il y a des personnes intéressées par la question, des personnes en questionnement. Et en fait, ça fait un super brassage. Des gens aussi qui viennent avec des pratiques de l'éducation populaire, et ça, franchement, hyper riche. Moi qui viens avec mon bagage pratique autogestionnaire, etc. Et du coup, première édition du festival l'année dernière. Donc là, c'est la deuxième édition cette année. Avec la préoccupation, en fait, de se dire, il y a des gens qui s'intéressent à ces questions. C'est des questions qui ne sont pas du tout visibles sur le territoire. Pourtant, on a un territoire de lutte. Il y a la lutte sur la forêt ici qui est hyper importante parce qu'on se fait dévaster comme le Limousin et plein d'autres endroits. Il y a des luttes écolo qui sont visibles, mais les questions féministes, pas du tout. Et du coup, on a envie de visibiliser ces questions-là, en fait, de les faire arriver en mode on va pas attendre que les gens s'intéressent, en fait, on va emmener ce truc-là. Et du coup, ça, c'est la première envie, quoi, faire un peu de pédagogie sur le territoire. Et la deuxième envie qui, moi, est vraiment mon envie profonde, c'est de faire réseau, de pouvoir s'identifier entre personnes queer et de créer un réseau. Là, l'idée, c'est vraiment ça. Il y a eu la deuxième édition de Morvandielle cette année. Et on est déjà un petit crew de personnes concernées. Et on a envie de créer une asso. Enfin, on ne sait pas trop quelle forme ça prendra, mais dans un premier temps, les besoins, c'est la socialisation. Parce qu'ici, on n'a pas d'endroit. Et du coup, c'est en ça où Perao, c'est cool d'ailleurs, parce que ça permet quand même d'être... de se retrouver dans un endroit. Mais à terme, enfin moi, franchement, j'aimerais trop qu'on ait un lieu... qu'on ait un lieu spécifique pour les personnes LGBT+, quoi.
Je m'appelle Yann, je travaille dans un musée, j'ai 27 ans, peut-être que je peux le dire aussi, bientôt 28. Je suis trans, du coup, et j'habite dans un coin perdu aussi, qui n'est pas à Brassy, mais qui est à 2 heures de route d'ici à peu près. Donc voilà, un rural aussi. Alors moi, je pense que je m'en suis rendu compte relativement tard que de ma transidentité, tout simplement parce que je n'avais pas le mot à mettre dessus, je pense, le vocabulaire, parce que j'étais tenue un petit peu à l'écart de tout ça. Et du coup, si je me souviens bien, j'ai vraiment commencé mes démarches et à en parler autour de moi. Je devais avoir 22 ans, je pense, 22, 23 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est relativement récent finalement. J'ai fait le pari de garder le même travail, les mêmes cercles amicaux, familiaux, sociaux, pré-transition, pendant transition et post-transition. Alors, c'est pas forcément évident tous les jours, mais je me rends compte que moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que ça s'est globalement bien passé avec tout le monde. Je viens de la Bresse, donc la Bresse, c'est une petite région où on fait du 30 par 40 km, on va dire. Je parle bien de la Bresse bourguignonne, hein, parce que la Bresse en elle-même est plus étendue. Et du coup, on est sur un territoire qui a toujours été un petit peu à l'écart. Des routes commerciales, des grands centres de pouvoir, etc. Donc les gens sont restés vraiment entre eux très longtemps. Pour te donner une idée, il y a des endroits où on a porté au moins la coiffe et les sabots jusque dans les années 1930, voire 1950, donc ce qui est vraiment très récent. Et toutes les personnes qui ont plus de 50 ans parlent encore patois couramment. Je suis aussi partie d'un groupe folklorique et c'est vrai que du jour au lendemain, je suis venue en disant bonjour, je m'appelle Yann. Ils m'ont dit ok, ça tombe bien, on manque d'hommes pour danser. Et voilà, et ils ont fait aucun cas, tout ça. Ils ont dit ok, d'accord, pas de souci, alors qu'ils me connaissent depuis que je suis née ou pratiquement. Et ils ont intégré le truc beaucoup, beaucoup plus rapidement que ma famille ou certains de mes collègues par exemple. Donc c'était assez surprenant. Alors, je dirais pas que je suis isolée à proprement parler. Je connais pas forcément beaucoup d'Adelphes en dehors de mes cercles habituels, on va dire. Je sais qu'il y a des gens, mais je les connais pas forcément. Ou alors, on se connaît de loin, on se croise de temps en temps. Par contre, j'ai la chance qu'au boulot, on est plusieurs à être LGBT. Et donc, du coup, je pense que j'ai au moins 3 collègues actuellement. Donc, c'est vrai que c'est chouette parce que du coup, on se connaît entre nous, on peut en discuter déjà entre nous au travail. Et ça donne une bonne ambiance qui est vraiment sympa au boulot, je trouve. Et après, bah moi, je vais plutôt chercher mes amis un peu plus loin. Alors, comme je fais partie d'une grosse asso nationale qui s'appelle France Genre, on est en ligne, on est sur Discord. Et donc, du coup, j'ai énormément d'Adelphes partout en France que je connais, à Paris, à Besançon, à Toulouse, enfin voilà, un peu partout. Donc, j'ai un cercle qui est très étendu, mais qui n'est pas forcément physiquement proche de moi. Et c'est vrai que du coup, je pense que c'est pour ça que j'apprécie d'autant plus de venir à Brassy, parce que justement, je peux avoir cette proximité avec les gens que je n'ai pas forcément ailleurs. Avec un autre collectif qui n'existe plus aujourd'hui, qui était un collectif queer. On avait été invité à la première édition de Morvandiel pour tenir un stand, donc on avait un infokiosque, j'étais venue avec des choses de France Genre, tout ça. Enfin voilà, donc on était de manière un peu invitée, un peu surprise, un peu informelle, on connaissait pas du tout les gens. Et l'ambiance m'avait beaucoup plu, mais en même temps, je connaissais pas très bien les gens et j'étais pas forcément très bien intégrée. On est un peu resté entre nous, comme on était 2-3, on est un peu resté entre nous pendant le week-end et j'avais pas forcément noué beaucoup de liens avec les gens, juste avec une ou deux personnes de Perao. Du coup, on avait gardé contact, on avait pris nos numéros de téléphone et c'est vrai que moi j'avais jamais réécrit parce que voilà, j'ai juste pris le numéro, mais c'était pas forcément dans le but de se tenir de se donner des nouvelles ou quoi que ce soit. Comme j'avais beaucoup aimé le Morvan, j'ai décidé que j'allais revenir faire un petit road trip, donc je suis partie en voiture avec la tente en me disant bah voilà, je vais planter la tente dans les campings, etc. Sauf qu'en fait, j'avais pas calculé qu'en novembre, dans le Morvan, tous les campings sont fermés. Et du coup, j'ai passé 2 nuits dans ma voiture à dormir sur les parkings. Voilà, c'était pas un souci en soi, mais à un moment, je me suis dit j'aimerais bien quand même prendre une douche et me poser un peu, avoir un repas chaud, enfin voilà. Et donc, j'ai cherché dans mon téléphone et j'ai retrouvé le numéro d'Amé notamment. Et je lui ai écrit vraiment, littéralement, c'est sorti de nulle part, 5-6 mois plus tard. « Salut, je suis pas très loin et ça fait 2 jours que je dors dans ma voiture, j'ai envie de prendre une douche. » Et ça s'est vraiment fait comme ça. Et du coup, Yael m'a dit « Bah oui, carrément, viens, il n'y a pas de souci, on peut même t'héberger et tout. » Donc du coup, je suis venue à Brassy, j'ai eu non seulement ma douche, mais j'ai eu aussi un repas et un lit. Et je me suis dit, et c'est là que j'ai vraiment pu faire connaissance avec les gens et que je me suis dit que c'était un endroit qui me correspondait vachement par rapport à toutes les questions que je me posais dans ma vie, au fait que parfois je me sens un peu isolée, etc. Et c'était vraiment une chouette expérience. Et finalement, je pense que depuis novembre, donc c'était novembre 2022, et je pense que depuis, je suis revenue pratiquement une fois par mois. Et je me suis vraiment impliquée dans Morvandiel 2e édition, du coup, cette fois-ci vraiment en tant que partenaire, en tant que bénévole. Et c'était vraiment une très très chouette expérience. Et je pense que maintenant, Brassy, Perrao, le Vivier, tout ça, c'est un petit peu en train de devenir mon lieu refuge, l'endroit où j'ai envie d'aller quand j'ai envie de faire une pause et de voir d'autres gens et de discuter de choses dont je ne peux pas forcément discuter au travail, notamment sur mon changement de mode de vie et toutes ces choses-là. Et c'est vrai que j'ai vraiment trouvé une très forte résonance avec cet endroit.
C'est un peu plus, si tu veux, être dans le corps d'un... Ouais, voilà, ouais. Aussi. Ouais. Et du coup, je voulais savoir si toi, par exemple, tu t'avais intégré aussi... Dans
des gestuels,
des gestuels plutôt de mecs.
Bien sûr, et surtout, là je le fais moins parce que, au bout d'un moment je m'en fiche en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Mais au début, quand j'ai commencé à draking, j'ai fait un peu des ateliers où je me suis intéressée aussi à toutes ces choses de gestuels, etc. Et en effet, bah oui, tu vas... Par exemple, le masculin, il est connu pour ne pas trop bouger, oui. Faire des mouvements assez carrés, oui. Pas trop...
Oui, voilà.
Bon, et du coup, bah oui, j'ai travaillé beaucoup mes déplacements, voilà, faire des déplacements un peu plus lourds, carrés, comme ça, parler bien comme ça, ancré dans le sol, parce que quand t'es un mec, t'es censé être ancré dans le sol, t'en imposes, carré, prendre de la place. Et donc oui, c'est un truc qui se travaille aussi. Ça m'a ouvert tout un monde de tous ces genres, etc. Je me suis rendu compte que c'était des constructions que, si je veux, je peux les changer et que je peux m'amuser avec aussi. Voilà. Alors maintenant, quand j'incarne Jésus, je ne fais plus trop attention. Mais c'est vrai qu'au début, je m'efforçais d'être bien, pas parce que je voulais être vraiment un drag king viril. Voilà, c'était mon début de carrière de drag king. Et du coup, j'ai travaillé ça. Voilà. Évidemment que c'est important. Autant qu'un maquillage, une voix...
Je m'appelle Mars, j'ai 24 ans. J'habite dans le Morvan. Où j'ai grandi aussi. Voilà, je vais être bientôt diplômée de mon master que j'ai fait à Paris. Moi, j'ai déménagé ici quand j'étais petit, depuis les Pays-Bas. Et donc, j'ai grandi ici jusqu'à mes 17 ans. Et après, je suis partie faire mes études dans des grosses villes. Et en fait, je suis tout le temps revenue les étés. Beaucoup, voir ma famille, travailler, profiter d'être à la campagne aussi, enfin, en dehors d'une ville en fait. Partir de la ruralité, c'était un peu un goal, quoi. C'était stylé, partir à la ville. En plus, moi, je suis pas partie à Dijon, qui était la grosse ville la plus proche, comme beaucoup des copains. Moi, je suis partie à Amsterdam, donc je suis partie loin. Ça me faisait peur de revenir. J'avais peur de... qu'il s'y passe rien, que j'y ai pas de cercle amicaux vraiment qui me correspondent. J'avais peur que du coup ce soit un échec, vu qu'il y avait ce truc de la réussite d'aller en ville et de réussir à aller en ville aussi, parce que c'est tout un... Enfin, je le perçois maintenant, moi, comme étant quand même un truc aussi hyper élitiste, quoi, de dire que t'as les moyens aussi d'aller vivre dans une grosse ville pour faire tes études et tout. Même si j'ai toujours galéré, j'ai réussi quand même à faire ça, quoi. Il y avait, je pense, une personne dans mon bahut qui était ouvertement LGBT. Et les remarques homophobes fusaient tout le temps, quoi. Donc je savais que c'était pas la peine d'essayer. J'en avais parlé peut-être à... J'avais fait mon coming out, donc à l'époque, bi, à deux copines. Et puis, ben, c'est tout, quoi. Et après, je suis partie à Amsterdam et je suis arrivée dans un endroit où tu pouvais être LGBT de ouf, quoi. Je me suis auto-limitée aussi dans ce que je me permettais, je pense, quand je revenais ici. Et après, par contre, j'ai commencé ma transition de genre. Et là, j'ai bien senti que que non, c'était pas très LGBT friendly vers chez moi. Là, ça a été plus radical quand même. Et j'ai perdu des groupes entiers de gens quoi, qui m'adressent plus la parole ou qui m'adressent la parole pour dire des choses pas gentilles, quoi, ou qui m'adressent la parole, mais en continuant à me mégenrer, alors que ça fait 2 ans qu'elles savent. Enfin, c'est aussi à ce moment-là que j'ai rencontré du coup des gens qui organisaient un festival LGBT dans le village à côté de chez moi, donc à 15 bornes, quoi. Et donc j'ai rejoint cette orga de gens incroyables que je connaissais pas, que j'avais pas trop rencontré parce qu'on a un petit gap d'âge. Et donc j'ai découvert tous ces gens qui existent aussi et qui sont genre comme moi. Enfin, on n'est pas les mêmes personnes, mais on est concernés par les questions LGBT. Ou alors c'est des personnes alliées, ou alors c'est des personnes pas forcément concernées directement par les questions LGBT, mais qui sont hyper à fond dans le féminisme intersectionnel et que du coup, ben voilà. Et du coup, ce festival et ces gens sont vraiment arrivés dans ma vie au bon moment. Et je pense que sans ça, je ne me serais pas projetée à revenir vivre ici, quoi. Du tout. Je pense que j'aurais fui. J'aurais abandonné ce projet. Et ouais, aujourd'hui, je suis très contente de ça. Et j'ai aussi rencontré d'autres personnes LGBT, même pas vraiment à travers le festival, mais juste qui sont venues s'installer dans mon village sur les dernières 2 années, quoi. Ce qui est trop chouette aussi. Parce que du coup, ben, ces gens-là arrivent là par hasard. Et puis en fait... on parle de ces trucs-là ensemble au marché, au café, quoi. Enfin, vraiment, même sans créer forcément. Parce que du coup, en créant le festival LGBT, bah, ça crée un lieu, on va dire, précis, un peu fermé, où on fait des réunions entre nous. Donc ça, ça crée évidemment des sphères où on se sent safe, où on se sent entendu et tout. Mais ça reste aussi fermé, quelque part. Et d'avoir aussi juste la possibilité d'aller au marché et de croiser, genre... le couple gay qui habite à 2 rues de chez moi le matin à la boulange, bah, c'est trop cool parce qu'on existe vraiment dans l'espace public à ce moment-là.
L'autre jour, ma meilleure amie m'a demandé, en parlant d'elle et de ma bande d'amis, « Ça ne t'a jamais dérangé que l'on ne soit pas queer ?» J'ai dit non. Bien sûr que non. Mais je sais que j'ai eu de la chance de trouver une famille choisie tôt. Là aussi, je sais que ce n'est pas partout, tout le temps. Alors je comprends ce besoin de créer des lieux, de faire famille, de faire refuge, d'habiter ensemble. Je comprends ce besoin de construire un futur qui nous semble désirable là où l'on vit. Lorsque les corps peuvent se détendre, se désactiver du mode autodéfense perpétuel dans lequel ils évoluent au sein de l'espace urbain hétéropatriarcal, on renoue aussi avec une certaine conception de la nature, au sens d'arrêter de performer la culture. On arrête de se lisser, de se polisser, de se surveiller. Extrait d'une interview de Myriam Bahafou dans Les Inrecuptibles.
Moi, je m'appelle Amé et j'ai 30 ans. De formation, je suis ébéniste, sculpteur sur bois, marqueteuse et tourneuse sur bois. Aussi. Alors moi j'ai grandi dans le coin, oui, à partir de mes 5 ans, mais j'ai eu envie de partir pour voyager. Et donc du coup j'ai à chaque fois fait une étape de plus en plus loin. D'abord au lycée je suis allée à Nevers, après je suis allée à Paris pour ma fin de lycée. Et ensuite je suis allée à Grenoble pour commencer l'université, que j'ai arrêtée assez tôt. Et après j'ai commencé à voyager. Depuis toujours, je me suis jamais sentie fille, femme. Mais je me sentais pas garçon non plus. Et du coup, quand j'étais jeune, j'avais les cheveux courts, tout ça, machin. Et du coup, tout le monde disait « Ah, garçon manqué, machin ». Vraiment, ça, je m'identifiais pas là-dedans, quoi. Et du coup, je pense que ça a beaucoup retardé que je comprenne et que je m'en rende compte et que je mette des mots dessus, parce que les mots étaient déjà pas très connus. Il y avait pratiquement 0 représentation. Et du coup, les seules représentations que j'ai eues, c'était des personnes trans qui sont dans la binarité, on va dire. Donc, homme ou femme, quoi. Et du coup, c'est vrai que la non-binarité, moi, le concept, il m'est arrivé assez tard. Et quand j'ai entendu, je me suis dit, bah oui, en fait. Enfin, c'est ça. Et... Mais en vrai, ça m'a... j'ai une chance incroyable que ça n'ait pas... Bon, c'est difficile à dire parce qu'en fait, on ne sait pas comment ça se serait passé dans l'autre cas, mais je n'ai pas l'impression que ça m'ait entravé énormément. J'ai plutôt l'impression que ça a retardé un épanouissement, quoi. J'étais bénévole dans un festival et qui était tout proche. Enfin, c'était la maison, deux maisons plus loin. Et je connaissais déjà Camille d'avant, mais pas beaucoup. Et j'avais un peu pensé en revenant dans le coin à me dire bon, où est-ce que je pourrais habiter. Sauf que le soir du festival, ici, il y a eu une fête très, très, très bruyante. Et c'est pas du tout, mais alors pas du tout mon style. Et du coup, ça a un peu rayé de ma liste cet endroit comme lieu potentiel. Et en fait, le lendemain, je suis venue parler avec Camille, je sais plus pourquoi. Et j'en ai parlé et j'ai emménagé la semaine d'après, finalement. Alors que je m'étais dit, bah non, la fête... Mais en fait, c'était assez exceptionnel. Une fête aussi grosse avec autant de musique. Voilà. Du coup, c'est un peu drôle, ce truc. Non, je ne viendrai pas du tout ici. Et finalement, je suis là. Depuis 3 ans maintenant. C'est un territoire très éclaté, quoi. Et du coup, il y a peu d'autres gens, peu de lieux de rencontre. Enfin, il faut se les créer. Du coup, c'est ce qu'on a commencé à faire. Donc ça, c'est super chouette. Et on renforce les liens petit à petit, tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, ça ne m'impactait pas. Parce que je ne me rendais pas compte aussi de... Je me rendais pas compte de l'impact et de la différence que ça créait par rapport à d'autres gens, quoi. Et de comment rencontrer des gens qui sont dans un cas similaire au sien, ça renforce, ça apaise, ça fait du bien, ça... Tout ça, quoi. Comme je suis pas du tout faite, je suis pas non plus festival, en fait. Donc j'organise ça avec grand plaisir, mais quand même, c'est pas mon domaine, c'est pas mon milieu. Donc je suis aussi, j'ai l'impression aussi de rencontrer des personnes queer de la communauté qui sont dans ce milieu-là et donc qui ne me correspondent pas non plus de ce point de vue-là. Sauf que bon, c'est marrant parce qu'on en rigole souvent, mais rencontrer des gens queer qui aiment faire des puzzles le samedi après-midi, c'est difficile de se rencontrer parce que du coup tout le monde est chez soi en train de faire des puzzles les samedis après-midi. Donc voilà.
Est-ce que tu invites... des personnes, est-ce que tu fais des puzzle parties?
Un peu, ouais. C'est un peu improvisé souvent, mais oui, ça arrive. Ou des jeux de société. Enfin, du coup, je peux décrire parce qu'on ne voit pas, mais on a ici dans le salon une étagère qui fait tout le mur rempli de jeux, quoi.
La queerisation rurale est un phénomène réel en France. Loin du projet de management dont elles ont fait l'objet, notamment par leur stigmatisation dans une culture artificielle de la fête et du sexe, sans réflexion politique, les communautés LGBTQIA+, montrent qu'elles savent se constituer en vraie force anticapitaliste, tournée vers la subsistance. Ces migrations rurales sont en train de redéfinir la géographie des écolos radicaux radicales et des milieux autonomes, de défier la définition de la nature comme pureté écologique et amènent des discussions concrètes sur les enjeux d'agriculture, d'élevage, de véganisme, bref, des possibilités de dessiner du nouveau sur des terres non pas vierges, mais héritières de mémoire. Les terres lesbiennes font partie de ces mémoires et ont ouvert des champs énormes pour penser la lutte comme autonomie et comme expérience communautaire liée à un territoire. Les chantiers en non-mixité dans les événements militants, les terres queer qui ont émergé à partir des événements violents à l'égard des personnes non-binaires et trans au sein des terres lesbiennes, les projets communautaires qui visent à retaper des maisons et imaginer des éco-quartiers et, s'il faut mentionner des noms, Sylvestre, les Lentillères, Bure et toutes sortes d'autres lieux sont porteurs de renouveaux queer ruraux et d'autres possibles écoféministes fertiles. Extrait du livre « Des paillettes sur le compost, écoféminisme au quotidien » de Myriam Bahafou.
Je me sentais isolée dans le partage d'idées, quoi. En fait, j'ai l'impression que pour avancer sur les questions, il faut pouvoir en discuter, se partager des nouveaux livres, des nouvelles idées, des nouveaux concepts. Et ça, du coup, là, c'était chouette. J'ai l'impression, le lieu ici et le festival, ça a un peu fait l'effet d'un iceberg où on voit une toute petite partie qui dépasse. Et en fait, là, on a mis en lumière tout ce qu'il y avait en dessous, en fait, tous les réseaux, tous les gens intéressés, tout... Moi, je suis super émue par
plein de moments du festival ou des moments de vie ici où des parents, par exemple, nous remercient en disant ben, on a été sur le stand de France Genre, on a discuté, en fait, ben, merci, notre enfant qu'on croyait malade et pas bien, ben, en fait, on a compris plein de trucs et on n'en serait absolument pas là dans notre questionnement s'il n'y avait pas eu le festival. Il y a un jeune de 18 ans là, qui était super content et qui a dit j'ai jamais dansé comme ça aussi librement que ici au festival parce que c'était safe et qu'il avait pas peur du regard des autres et tout.
J'ai l'impression qu'il y a une petite vague là qui est en train de se construire et que du coup ça met plein de gens en questionnement, ça fait que les gens, je pense, qui sont un peu moins touchés par la question, mais qui se questionnent, et ben, ça les fait bouger. Et puis nous, ça fait surtout qu'on peut enfin se retrouver, quoi. Et je pense, dans un premier temps, on va faire un espace de convivialité et se retrouver là autour. Et il y a plein d'autres envies après, mais je pense que dans un premier temps, ça va être ça, l'urgence, quoi. Socialiser, juste se retrouver. Parce qu'on est quand même sur un territoire où si t'as pas de caisse, tu fais pas grand-chose. Et moi, je trouve ça complètement dingue, vu que j'habite là depuis 15 ans et que j'ai toujours eu l'impression d'être toute seule, quoi. Du coup, c'est hyper nourrissant, en fait. Moi, avant, j'allais à Dijon ou dans d'autres villes. J'allais à des rencontres queer dans le reste de la France. Mais du coup, là, genre, organiser des rencontres queer ici, dans le Morvan, c'est juste... c'est complètement ouf, quoi. Du coup, j'ai l'impression que c'est un peu le début d'un truc... Je pense que ça amène une petite visibilité de, en fait, ici c'est possible de, ouais, c'est possible de vivre et d'être bien et de retrouver, enfin, de pas être seul. Du coup, j'ai un peu l'espoir que ça devienne, enfin, je sais pas, qu'il y ait un petit appel d'air de plein d'autres queer freaks qui viennent dans le coin, quoi. Voilà.
J'arrive quand même à me sentir bien. Enfin, j'ai pas peur dans la rue, j'ai pas tous ces trucs-là que j'avais quand même beaucoup plus en ville pour le coup. Et je pense qu'aussi. Pour moi, l'aspect rural crée aussi quand même un rapport plus humain, quoi, parce que tu te connais. Enfin, en plus, moi, je viens vraiment d'ici. Les gens me connaissent depuis que j'ai 7 ans. Et donc, y a ce truc aussi un peu de... on se connaît, on est une personne face à une autre personne. Et moi, en tout cas, j'ai l'impression que du coup, il y a des violences qui sont moins permises par ce truc-là. Parce qu'il y a un rapport plus... Ouais, plus honnête, plus individuel, et il n'y a pas l'anonymat de la ville où on peut se permettre d'avoir des remarques horribles à quelqu'un sans aucune conséquence derrière, parce qu'après, tu te barres et tu te recroises plus jamais. Et ici, s'il y a des remarques horribles, tout le monde sait. Après, les gens ne sont pas forcément... Enfin, ça dépend de quelle personne. Tout le monde ne sera pas forcément outré si quelqu'un a des remarques horriblement transphobes. Mais il y a des gens qui le seront, tu vois. Et je connais mes alliés aujourd'hui, et je sais que... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a aussi une forme de... Parce que les gens me connaissent moi, connaissent mes parents, savent que j'ai travaillé à la mairie de mon village, là je travaille pour le parc naturel régional, enfin il y a un truc aussi de genre... En fait j'ai aussi mes réseaux un peu plus pro, un peu plus... je gravite aussi dans des sphères comme ça où... Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui joue sur le fait que si je croise le maire, je lui dis bonjour, moi je sens que ça crée un truc, en tout cas moi je le ressens comme ça, ça se trouve les gens autour de moi ils s'en foutent, mais moi ça me crée un sentiment de sécurité aussi, tu vois, de savoir que le maire il est tout à fait chill avec les personnes trans, qui m'a jamais mégenré et qui me dit bonjour le matin au marché, ça veut dire que le maire m'accepte. Donc finalement, et la boulangère aussi, c'est même pas juste une question de statut politique, mais genre, s'il y a certaines personnes dans ton village qui sont un peu vues comme des personnes qui ont un certain poids social, j'ai l'impression, ça crée aussi un peu cette truc de normalité trans-friendly, quoi. Enfin, je suis pas hyper fan de me dire que il faut se faire accepter en tant que personne trans par un personnage fort de ton village pour se sentir safe ou accepté, ou en tout cas sentir que les personnes qui sont vraiment transphobes vont pas forcément se permettre de dire certaines choses parce qu'elles te voient être acceptée par d'autres et que ça crée une forme de censure et tout, mais en même temps ouais, je sens que ça passe par là aussi, quoi. et que ça, c'est un truc qui pèse quand même, surtout bah, du coup, dans le truc qui est hyper rural comme ça, où tout le monde se connaît.
Il y a bien des définitions du mot « habiter ». Mais je crois que ce que m'ont appris ces quelques jours à Vrassy, c'est que faire famille, faire collectif, ça apaise, peu importe où on a posé ses valises. Je ne suis pas sûre que l'utopie existe vraiment. Je pense qu'on peut tendre vers elle, mais il y aura toujours des imperfections. Ce que j'ai vu à Peirao, ce sont des gens qui existent, vivent, rient, des personnes qui font un pas vers les autres. À Peirao, vivant en collectif, des personnes assez extraordinaires pour investir leur territoire d'une façon douce et joyeuse et pour inventer des ponts entre les gens.
Et moi, ce que j'aimerais, c'est que du coup, ça puisse continuer en dehors du festival, que ça reste pas. À un moment, on fait la fête. Alors oui, ça, c'est très bien. Et pas que, d'ailleurs, parce qu'au festival, il y a aussi beaucoup de moments d'échange, de paroles, d'apport de connaissances et tout ça. C'est pas que la fête. Et je trouve ça important aussi de rappeler que les questions queer, c'est pas seulement des paillettes et des drapeaux de couleurs, quoi. Les questions queer, en fait, c'est aussi des gens qui sont vraiment en souffrance, des oppressions, des discriminations qui touchent très très fort et dont on n'a même pas idée de... Ça peut être des gens juste à côté de chez soi, quoi. Et j'aimerais bien qu'au cours de l'année, il y ait un fil qui se tisse de réseaux. Et je crois que ça, c'est en train de se mettre en place, même sans qu'on le veuille. En fait, ça existe, et notamment au travers de ici, Peirao. Et aussi qu'on éveille les gens qui sont absolument à mille lieues de ça et qui pensent que c'est une question citadine, peut-être. Je crois qu'il y en a qui s'imaginent, oui, que c'est une question parisienne, presque. Et le grand public, quoi, de Brassy n'est pas vraiment venu au festival, mais ils savent que ça existe. Alors déjà, je pense que ça les questionne un petit peu, et ils en parlent énormément. Enfin, en fait, je crois que la moitié des discussions du festival, elle a lieu au bar, pendant le week-end, au bar du village, quoi, où nous, on n'est pas. Et où là, oui, bah là, il y a des gens, il y a des gens qui discutent. Et le responsable du bar, qui est un allié de l'asso, il raconte plein de conversations. Et il dit, bah, dis donc, ce week-end, là, au bar, les gens, ils avaient besoin de parler. Hein. et après, les gens du village, comme nous, on habite ici, on les côtoie, et donc, ils reviennent nous voir avec des questions. Par exemple, là, il y a un gars qui est venu me voir l'autre jour en me disant oui, bon, il est pas super pour ce qu'on fait. Je pense que, enfin, ça va trop loin pour lui. Il en est pas là, quoi. Mais du coup, il est venu me voir en disant oui, ben moi, ce qui me gêne, c'est que du coup, ma fille, elle a 5 ans et elle me demande pourquoi le monsieur il a des seins. Et du coup, elle comprend pas. Et je lui dis, bah, en fait, c'est bien. Tu vois, je trouve ça génial qu'ils viennent jusqu'à moi avec ce genre de questions, quoi. Et que du coup, je lui dis, bah, c'est bien, elle se pose des questions. Nous, on peut tout à fait, tu vois, se croiser, se voir. Et je vais t'expliquer qu'en fait, on est tous des humains et des humaines et ça va bien se passer, tu vois. Et je crois peut-être on a mis... Bon, peut-être on a été trop fort d'un coup. Un moment pour eux, ils n'étaient pas prêts, mais je pense que ça va faire son chemin.
C'est mon rôle là-dedans, en tant que personne trans et militant, justement d'en parler avec les personnes qui en ont besoin, qu'on fasse de la pédagogie, qu'on réponde à leurs questions, etc. Tout en leur disant que justement, il y a plein d'autres personnes trans qui n'ont pas envie de faire cette pédagogie-là, qui sont trop fragiles pour le faire, et que quand on va voir son médecin traitant parce qu'on a un rhume, on n'a pas envie de répondre à des questions sur ses parties génitales, quoi. Voilà. Moi, je veux bien faire ce travail-là, mais par contre, une fois que je l'ai fait, je compte sur les personnes à qui j'ai répondu pour qu'elles ne reposent pas ces questions derrière, et ça, je leur explique clairement à chaque fois.
Quand je distribuais l'affiche, il y avait une dame qui... Elle a lu Morvandiel, genre et sexualité sur l'affiche et elle pensait que c'était une partouze, ouais, que c'était une soirée sexe. Et je dis ben non, c'est pas, c'est vraiment pas ça. Et du coup après elle m'a demandé ce que ça voulait dire du coup genre et sexualité et du coup je dis ben les sexualités c'est par rapport aux orientations sexuelles donc par qui on est attiré, par quel genre on est attiré, si on est attiré par des hommes, par des femmes, par les deux, par les personnes non-binaires. Bon, j'ai pas dit non-binaire à cette dame parce que je voulais y aller doucement, mais puis après le genre, voilà, j'ai dit ben c'est par exemple le genre, ben, par exemple, pourquoi ce serait tout le temps les femmes qui feraient la vaisselle, par exemple. C'est ces questions-là qu'on aborde au festival. Et j'ai dit ça, elle a dit « Ah !» Ah oui, ça, je suis d'accord. Hein. Ah oui, parce que moi, jamais mon mari, il veut passer aspirateur. Elle a commencé à me raconter sa vie et tout. Et du coup, elle était contente. Et du coup, elle voulait venir à Morvandiel. Et du coup, elle est venue, quoi. Et il fallait expliquer ce truc-là. Et donc, il y a aussi un truc, ouais, sur le langage qu'on a à repenser. Parce que ça parle à notre commu, mais à la commu des gens 6-7 éloignés des questions féministes et intersectionnelles. Ben ouais, ça connote partout à la limite, quoi.
Ouais, je comprends.
Du coup, ouais, on va mettre une nébuleuse de mots, on va écrire vaisselle, aspirateur, chantier, bricolage.
Vous n'êtes pas obligé.
Venez questionner.
Pour conclure la première partie de cet épisode 2, je voudrais remercier les personnes interviewées. Camille, Amé, Mars, Yann, Ju et Marine. Merci aussi à toutes les autres personnes que j'ai rencontrées lors de ces quelques jours à Brassy, notamment Hugo, Camille et Nadine et Jésus. N'hésitez pas à mettre des étoiles, des commentaires sur Apple Podcasts. Et le meilleur moyen de faire grandir ce podcast produit de façon 100% indépendante, c'est de le diffuser autour de vous. Et j'ai aussi une page Tipeee que vous pouvez retrouver sur mon Instagram,